L'API agroforesterie de demain avec Yves Daricot.
Je vais donc commencer par dresser le tableau. J'espère qu'on aura les photos parce que parler d'apiculture et d'arbres sans photos, c'est quand même un peu décevant. Bon, voilà, donc je suis Yves Daricot, je suis apiculteur et surtout apiculteur et surtout planteur d'arbres. Donc ma vision a été au départ une vision de planteur. Et ensuite, au cours de mes activités d'apiculture, j'ai constaté qu'il y avait effectivement des problèmes pour nos abeilles et des problèmes qui dépendaient effectivement de la flore et en l'occurrence des arbres dont elles avaient la proximité. Alors j'ai commencé ma petite carrière d'apiculteur amateur dans le Gers, il y a maintenant une quarantaine d'années. J'avais hérité de mes parents d'un rucher fixe de 25 ruches. Et un beau jour, l'agriculture gersoise a commencé à s'intensifier et à passer, au moins dans ma région, à des assolements très simplifiés. Colza, tournesol, colza, tournesol. Alors on faisait des quantités phénoménales de miel de colza. C'était un vrai problème parce que, comme vous savez, il durcit très vite dans les récipients. Donc, c'est pas très agréable, effectivement, en quantité. Et surtout, d'énormes quantités de tournesol. Manque de peau, dans les années 75 à 80, ces cultures ont été traitées de plus en plus. Histoire que vous connaissez tous. Et un beau jour, les 25 ruches sont devenues vides. Et toutes mes ruches sont mortes. Ce jour-là, donc, j'ai décidé d'arrêter de faire de l'apiculture dans le Gers parce qu'effectivement, tout autour, c'était devenu de l'agriculture intensive et sans, je ne voyais pas trop de solutions pour un rucher fixe. Par chance, ma femme bretonne avait des terres, donc nous avons relancé une petite apiculture familiale en Bretagne, dans le sud de Bretagne, alors dans des zones forestières de forêts de châtaigniers. Pour vous expliquer que je suis passé d'un environnement assez agressif pour les abeilles à un environnement très tranquille. Pas d'agriculteurs, si ce n'est quelques éleveurs bio, donc pas de problème sur les ruches. Et en parallèle, donc, j'ai toujours planté des arbres. Ça, c'est pour vous situer un peu ce qui m'a amené à ce que j'ai présenté dans le livre et que j'ai appelé l'apiforesterie pour simplifier un peu la démarche. Maintenant, je reviens sur les abeilles. Comme je suppose la majeure partie d'entre vous le savent, les abeilles sont des animaux qui se nourrissent de plantes, ont besoin de nectar pour l'énergie et de pollen pour les protéines. Il se trouve que les abeilles stockent relativement facilement l'énergie sous forme de miel dans leur ruche et peuvent passer quelques mois tranquillement si leurs réserves sont suffisantes, sans souci de ce côté-là. Par contre, pour la protéine, pour le pollen, elles le stockent certes, mais d'abord en quantité plus faible. Et visiblement, la qualité du pollen stocké ne les satisfait pas. Dès qu'elles peuvent, vous avez remarqué, les abeilles vont chercher du pollen et de la protéine, quel que soit le temps disponible dehors. Ça, c'est une première constatation que je voulais vous indiquer. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours considéré le pollen comme le facteur limitant de l'alimentation de nos abeilles. La qualité du pollen. Et il se trouve, je parle de qualité du pollen, il se trouve que la qualité des pollens, la teneur en protéines en particulier, est extrêmement variable. Et si on regarde les acides aminés de chacun des pollens, c'est aussi vrai. Il faut donc, et ça a été de plus en plus étudié par les chercheurs, il faut donc que les abeilles aient à disposition des pollens variés. Alors pour faire une image simple, nous on dit il nous faut 5 fruits et légumes par jour. Pour rester dans cette image, il faut 3 pollens différents par jour pour les abeilles. Il leur faut une variété de pollens et c'est fondamental. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. La troisième chose, c'est que les abeilles n'hibernent pas. Elles n'hibernent pas. Elles sont actives Ah, c'est une bonne nouvelle. Merci. Elles sont. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bon. Oui, donc je continue. Les abeilles sont actives toute l'année. Ça, c'est important. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'insectes et et d'autres animaux qui arrivent à hiberner, c'est-à-dire à baisser leur métabolisme et à ne pratiquement consommer qu'un minimum d'énergie lors des mois hivernaux, l'abeille est toujours en activité. Ça veut dire que l'hiver, elle a besoin dans sa ruche de réserves en miel et en pollen, comme j'ai dit, mais elle a surtout besoin de ne pas en dépenser trop. Plus il fait froid, plus elle va dépenser de miel pour se chauffer, mais plus il fait chaud dehors, pour des raisons X ou Y, j'y reviendrai, plus ça va sortir et se balader et dépenser de l'énergie. Vous voyez, pour l'instant, tout va bien. Donc, le micro là. Bon, excusez-moi si vous n'entendez pas de temps en temps. Donc, oui, s'il fait doux dehors, nos braves abeilles vont se balader et dépenser de l'énergie. Donc, je résume. Pollen, matière première stratégique problématique. Deux, les abeilles n'hibernent pas, elles hivernent. Et si elles le peuvent, elles le sortent et dépensent de l'énergie. Je vous ai parlé des abeilles. Maintenant, je vais vous parler rapidement de deux choses qui sont très importantes aussi. Le climat. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le réchauffement climatique, mais globalement, vous l'avez tous constaté, on parle du réchauffement climatique. On a déjà visiblement un degré de plus aux moyennes traditionnelles historiques et on en attend un ou deux de plus d'ici 2050. Donc, nous sommes en période de réchauffement climatique. Qu'on le veuille ou non, même si demain on arrêtait tout ce qui envoie du carbone dans l'atmosphère, on est parti sur cette logique-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ça se réchauffe, les conditions de milieu de la végétation et des abeilles vont changer. Un degré de plus de moyenne, un degré de réchauffement, correspond à peu près à un déplacement des conditions de vie de 200 km vers le sud. Donc aujourd'hui, Nantes, dans 10 ans, aura la température moyenne de Bordeaux. Et vous faites tout à l'avenant. La chaleur augmente dans tous nos milieux d'un voire deux degrés pour 2050. Ça veut donc dire que la végétation qui se trouve à Nantes va se retrouver dans les conditions de milieu de la végétation de Bordeaux. Celle de Bordeaux va se retrouver, etc. etc. Et ça va très vite. 2 degrés en 50 ans, c'est quelque chose d'énorme pour des végétaux qui ne bougent que si on les fait bouger. À part les oiseaux et autres mammifères qui déplacent les glands, les végétaux ne se déplacent pas tout seuls. Ou à une vitesse géologique. Donc, il faut imaginer que nous allons avoir des milieux végétaux en situation différente à celle qui est la nôtre et la leur depuis quelques milliers d'années. Ça veut dire aussi que tous les végétaux de tous nos milieux vont avoir des cycles raccourcis. Ils vont fleurir plus tôt. Plus il fait chaud, plus les floraisons s'avancent. Alors, c'est pas gênant pour les agriculteurs. Si le maïs fleurit trop tôt, ils changent de variété, ils en prennent une tardive et ils allongent les cycles culturaux. Idem pour la viticulture. Vous avez entendu parler, les Bordelais qui plantent majoritairement du Merlot se préparent à planter des cépages qui viendront du Portugal ou d'Italie et qui accepteront les 1 ou 2 degrés de plus. Par contre, les chênes, les tilleuls, les châtaigniers, machin, ceux-là, ils vont être là et ils vont fleurir en moyenne un mois, sinon plus, avant les dates que l'on connaît. Déjà aujourd'hui, il y a un dicton dans le sud-ouest qui disait que les tilleuls, on les récoltait à la Saint-Jean. Maintenant, on les ramasse un mois avant. Donc, vous imaginez bien que tous les arbres que nous avons à disposition vont donc fleurir un mois avant leur date traditionnelle, au moins. Ceci va donc allonger la période entre la fin de floraison de nos arbres et l'hiver, d'au moins un mois, et que vont donc avoir nos abeilles pendant le mois de précocité qui va leur être imposée. C'est un facteur important. La végétation actuelle va avoir son cycle raccourci, va fleurir plus tôt et va donc augmenter la période d'éventuelle disette, pour le dire comme ça, pour nos insectes, dont les abeilles. Autre chose... Ah, j'ai parlé trop. Et du coup, il est parti... Non, c'est bien. Alors, je ne sais pas comment... Il faut que je passe à la deuxième diapositive. Vas-y voir. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire à propos du... excusez-moi, je reviens sur le climat. Les arbres et les fleurs vont donc avoir leur cycle raccourci. Et nos abeilles, que va-t-il se passer pour nos abeilles? Je reviens sur ce que je vous disais. Si les hivers sont doux, si on a des journées à 10-12 degrés, sans trop de vent, sans trop de pluie, etc., pendant les hivers, elles vont sortir. Elles vont sortir. Pourquoi faire? Pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose à faire leur vol de propreté, mais aussi aller voir s'il n'y a pas quelque chose à récolter. Ça va donc leur faire dépenser de l'énergie. Ce que je dis là, ça paraît un peu des élucubrations, pas du tout. En Californie, la situation écologique des Californiens est pire que celle qu'ils souhaiteraient et que la nôtre, bien entendu. Ils ont actuellement des sécheresses et des chaleurs extrêmement fréquentes. Qu'est-ce qu'ils font, que font les apiculteurs californiens pour éviter que leurs abeilles se baladent en Californie où il n'y a rien à manger en hiver? Il y a des amandiers, sinon il n'y a rien. Ils les mettent dans des chambres froides. Ils mettent leurs ruches dans des chambres froides tout simplement pour leur faire croire qu'il fait froid et qu'elles arrêtent de sortir et qu'elles ne dépensent pas leurs réserves à se balader dans le paysage. C'est quelque chose d'assez étonnant. C'est à la fois sympathique, les apiculteurs californiens ont trouvé une solution, mais enfin, on va pas tous se mettre à louer des chambres froides pour nos abeilles en hiver. Donc ça aussi, c'est un autre critère. Je vous l'ai dit, radoucissement, les abeilles sortent. Que font-elles? Elles dépensent de l'énergie à leur risque et péril, parce que vider les réserves de la ruche en hiver, c'est à leur risque et péril. Ça peut très mal se terminer. Voilà, ça c'est pour le réchauffement climatique, j'y reviendrai par petite dose. Et le troisième point que je voulais vous dire, et ça tout le monde peut le constater, les activités agricoles, mais pas seulement urbaines, en particulier, même si la vague du remembrement est derrière nous, l'agriculture continue à modifier les paysages et à les simplifier. Là, je vous ai mis un exemple un peu criant. C'est donc dans ma zone de Sud-Bretagne actuelle. On a un ancien bocage dont restent des chênes. Il y a des petits talus entre. La tradition, c'était des herbages avec des talus et les arbres dessus. Les talus ont été arasés. En emportant le talus, on a emporté tous les petits arbustes, les ronces et autres. Ne reste que les chênes qui, par chance pour eux, ont encore une utilité dans le sud de la Bretagne, parce que les gens se chauffent au bois. S'ils ne se chauffaient plus au bois, il n'y aurait plus de chênes. Bon, donc les chênes, ils sont là, ils leur filent de temps en temps une magnifique peignée le long du tronc pour faire des fagots. On les étête aussi pour faire des têtards. Donc les chênes ont encore une utilité dans ce paysage. Ils sont encore là. Et dessous, la prairie a été remplacée par du maïs. Alors ça, c'est très fréquent. Une prairie naturelle où il y avait toute une flore très intéressante pour les insectes et les abeilles, se voit remplacée par du maïs. Alors là, il est pour aller plus vite, on y met un paillage plastique, même s'il est recyclable, on a affaire à du maïs dont le pollen est vraiment pas terrible pour les abeilles. Donc on passe de milieux riches, type prairie avec des haies, etc., à des milieux extrêmement appauvris. Je dis pas que c'est un désert pour les abeilles, mais ça y ressemble pas mal, quoi. Ça, c'est l'agriculture bocagère de l'Ouest. Alors, je ne vous parle pas de l'agriculture céréalière ou intensive ailleurs, où on se retrouve avec de plus en plus des assolements très simples, blé, colza ou colza tournesol ou colza maïs, c'est ce que je sais, qui sont des assolements répétitifs où le sol est quasiment nu entre les cultures et où donc il n'y a plus de nourriture pendant plusieurs mois pour les abeilles. Dans le Gers où j'étais, colza, tournesol, entre le colza et le tournesol, rien. Après le tournesol, rien. Alors ça fait des pics comme ça. Ou bien les abeilles, effectivement, stockent de quoi manger, ou bien on se trouve avec des périodes de disette extrêmement longues et problématiques. Si en plus on y rajoute, ce dont je n'ai pas parlé, les pesticides, alors là ça tourne à ce que les chercheurs appellent les cocktails, c'est-à-dire que vous avez à la fois des pesticides, des maladies, d'autres ravageurs comme le frelon asiatique, etc. Et nos braves abeilles se retrouvent en état d'infériorité par rapport à toutes ces attaques. Les chercheurs américains ont montré il n'y a pas très longtemps que les néonicotinoïdes tout seuls étaient un problème, mais qu'une ruche costode pouvait s'en sortir. Si vous mettez une ruche en état de disette alimentaire pour des raisons X ou Y, manque de pollen, ce que je sais, la même dose de néonicotinoïdes, vous nettoyez carrément la ruche. Donc on a affaire à des synergies négatives et on retrouve l'alimentation des abeilles comme un facteur affaiblissant des colonies. Tout le reste leur tombe dessus alors qu'elles sont comme un organisme mal nourri en état de faiblesse. Donc je ne dis pas que c'est central et que c'est l'unique raison, c'est des cocktails, mais je dis que l'alimentation des abeilles devient problématique en qualité, je parlais des trois pollens, en quantité selon certaines périodes, et en disponibilité, il faudrait imaginer qu'à l'avenir, sur une planète qui se réchauffe, lorsqu'elles vont sortir en décembre, aller se balader, il y ait des fleurs, pourquoi pas. Je reviendrai là-dessus. Dernier point que je voulais vous dire, c'est la perte d'utilité des arbres n'est pas seulement chez les agriculteurs. J'ai dit les agriculteurs n'ont plus besoin, pratiquement plus besoin des arbres dans leur vie quotidienne. Avant, l'arbre, il servait à chauffer la ferme, il servait à éventuellement à nourrir les animaux, à avoir des matériaux pour faire des barriques, des planches, construire les tables de la cuisine ou des choses comme ça. Au jour d'aujourd'hui, l'arbre n'est pas un outil, n'est plus utile dans une agriculture largement diffuse que nous avons. Donc cette perte de l'utilité de l'arbre, elle est aussi urbaine. Ça je voulais, s'il était là, il m'engueulerait, c'est un de mes voisins. Il y a 4 ans qu'il a acheté une parcelle. Donc on est toujours en Bretagne, il a enlevé tous les arbres qu'il y avait, donc c'est magnifique, c'est tout nu. Il a mis son gazon, il a mis sa maison, 4 ans, il n'a rien planté. Pourquoi il n'a rien planté? Parce qu'il n'a aucune utilité à mettre, ça ne l'intéresse pas. Il a pas d'activité jardinière, donc c'est très bien, une pelouse toute verte, tant en temps il sort, sa tondeuse, etc. Et ça, c'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que l'arbre devient inutile aussi en ville moyenne. Je ne parle pas des grandes villes comme Paris et autres, où il y a d'autres logiques qui font, ou comme Lyon, où il y a d'autres logiques qui font que grâce à des services publics, etc., on plante des arbres. Dans le milieu rural français, qu'il soit urbanisé ou agricole, le problème actuel, c'est l'utilité de l'arbre. On ne voit plus d'utilité à nos arbres, de façon générale. Alors, je reviens sur ce que... Tout cet ensemble de constatations me fait dire que l'alimentation des abeilles est un problème aujourd'hui, mais va le devenir encore plus avec le réchauffement climatique. Il faut donc imaginer une solution, et c'est là que je voulais en venir, une solution qui redonne du sens à des arbres pour les abeilles et les autres pollinisateurs, et surtout pour leur assurer toute l'année du pollen. Alors c'est très facile et très compréhensible. Donc ce que je vous ai expliqué avec le réchauffement, notre flore actuelle, excusez-moi, je suis un peu touffu. Notre flore actuelle pour les abeilles, il y a deux dates que tout le monde connaît. C'est le printemps, en général marqué un peu partout par la sortie des pissenlits, il y a une marée de pissenlits. Alors là, les abeilles commencent à voir que ça y est, c'est bon, c'est le printemps. Et derrière, vous avez tous les arbres fruitiers, etc. Jusqu'aux derniers grands arbres à fleurs de notre flore actuelle, qui sont le châtaignier et le tilleul. Donc, comme j'ai dit, ça autrefois, c'était fin juin et ça, disons, mi-juillet. Ils ont pris un mois dans les dents, donc c'est plutôt début juin, fin juin. Donc, entre les pissenlits, les châtaigniers et les tilleuls, tout va bien. La flore classique, usuelle, fait son boulot. Notre problème, c'est après et avant. C'est-à-dire fin d'été, automne, hiver, jusqu'au printemps. C'est là qu'il faut trouver des végétaux qui vont assurer un calendrier alimentaire continu aux abeilles. Spécialement orienté sur le pollen, on va toujours continuer à faire du miel avec le nectar des pissenlits, des tilleuls, des acacias, etc. Ce que je dis, ce n'est pas faire du miel en dehors de ces saisons-là. Ce que je dis, c'est donner une alimentation, donc du pollen, toute l'année aux abeilles. Qu'elles puissent sortir, et alors allons jusqu'au bout et rêvons, au moins 3 pollens tous les jours différents pour nos abeilles. Alors, ce n'est pas si impossible. Il y a, dans la flore traditionnelle française et européenne, le lierre. Alors je le mets parce que c'est la plante stratégique des abeilles. Ça me permet de dire quelque chose. Le lierre assure, juste avant l'hiver, les quantités de pollen et de nectar que toutes les abeilles et autres pollinisateurs vont chercher pour passer l'hiver. Quand vous passez à côté un beau jour d'automne près d'un beau lierre, vous allez être convaincu, il y a un bruit d'enfer, toutes les abeilles du coin sont dedans. C'est vraiment un stratégique. Le problème du lierre, c'est qu'il pousse sur des supports, donc des arbres, des vieux murs, etc., que pour fleurir, il faut qu'il soit en haut. Alors ça peut être en haut d'un poteau, vous avez déjà vu des poteaux de haies avec un petit lierre qui fleurit, ou en haut des arbres. Il lui faut, tant qu'il peut monter, il monte, ce n'est que quand il a fini de monter qu'il fleurit. Ça c'est un problème, parce que les vieux arbres, il y en a, mais pas tant que ça. Les vieux murs, il y en a de moins en moins. Et les gens qui acceptent que les lierres grimpent comme ça à gauche à droite, il y en a aussi de moins en moins. Donc si j'en parle, c'est pas qu'il est disparu, c'est qu'on a tendance à le négliger, voire à ne pas laisser, à ne pas supporter qu'il grimpe un arbre, etc. Il n'est pas dangereux pour les arbres, sauf si les arbres sont un peu faiblards. Effectivement, avec le poids, le lierre finit par tomber les vieux arbres creux et autres. Mais durant sa vie et la vie de l'arbre, ça se passe plutôt bien. Donc, il est stratégique. Un autre qui est stratégique, alors ça c'est pour toute la façade atlantique française, c'est l'ajonc. L'ajonc, lui aussi, c'est un mal-aimé. Pour d'autres raisons, il a été mal-aimé parce que il pique. Il ressemble plus à un végétal, comment dirais-je, désagréable et empêcheur de se balader, etc. Qu'autre chose. En plus, une fois qu'il est installé, il est très difficile à extirper, ce qui lui a valu une mauvaise réputation chez les agriculteurs, peut-être à juste titre, soit par là. Mais il n'empêche que c'est un redoutable allié des abeilles parce qu'il fleurit en hiver. Ce qui est sympathique, c'est que quelques grands jardiniers commencent à introduire l'ajonc comme plante décorative. Et c'est vrai qu'il a une sacrée allure. C'est très lumineux. Quand vous voyez sur des aiguilles vert sombre, ces fleurs, ça peut être en Bretagne, sur les côtes de granit et autres, avec un coup de soleil, c'est magnifique. C'est vraiment très beau et ça mériterait, malgré ces aiguilles, d'être dans les jardins. Dernier point, c'est un redoutable fixateur d'azote. C'est-à-dire que vous le mettez dans des sols, il enrichit les sols en apportant de l'azote. Bon, ça paraît secondaire, mais ça veut dire que tous les arbres qui vont pousser à sa proximité vont profiter de l'azote et vont s'en porter remarquablement bien. Bon, ça c'est pour notre flore traditionnelle. Il existe ailleurs dans le monde, c'est un peu le côté intéressant de ce que je pense, des flores tempérées. Le monde tempéré, c'est l'Asie, la Chine, les hautes terres d'Asie centrale, de l'Himalaya. Vous vous baladez sur tout le Caucase, etc. L'Europe, bien entendu, et l'Amérique du Nord. Ces flores ont évolué de façon différente au cours de l'histoire. La flore qui est la nôtre, il y a 10 000 ans environ, était sous les glaces. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait eu avant a disparu. À quelques exceptions près, la flore européenne sous les glaces a disparu. il y en est resté, celle qu'on voit pour l'essentiel, une partie de cette flore qui a pu soit descendre au sud lentement, se protéger, rester pendant la période glaciaire à l'abri des froids et autres, et remonter ensuite. C'est le cas, par exemple, du lierre. Le lierre, il a toujours été chez nous. Lorsque les glaciations sont arrivées, il a fait comme tout le monde. Il s'est planqué dans des îles méditerranéennes, on ne sait pas trop où, et il est remonté. Lui, c'est typiquement un rescapé de la glaciation. D'ailleurs, vous allez remarquer quelque chose, il fleurit curieusement novembre. Combien y a-t-il de notre flore traditionnelle qui fleurit à cette époque-là? Donc c'est un curieux dans le panorama. Il est chez nous, il est descendu, il est remonté et il fleurit en hiver. Dans la flore tempérée, il y a très peu de nos végétaux qui ont pu se sauver et revenir. On a perdu quantité, dans les familles végétales, on a perdu quantité de chênes, de tilleuls, d'arbres et même de familles. Les magnolias, il y en a eu avant les glaciations, ils sont morts. On les a réintroduits dans les jardins. Ils viennent des États-Unis ou de Chine. Donc, dans les végétations tempérées, il y a eu des histoires différentes. La nôtre a été décimée par les glaciations à quelques exceptions près. On se retrouve donc avec quelques chênes, quatre tilleuls. Ben, bref, nous avons une des flores tempérées les moins diversifiées de la planète. À cause de ce qui s'est passé. Et on constate que les flores tempérées d'Asie ou d'Amérique sont nettement plus diversifiées. Les familles végétales n'ont pas été décimées, elles avaient évolué avant les glaciations, elles ont continué à évoluer, et on se retrouve, par exemple, nous, je vous ai donné un exemple, avec quatre variétés de tilleuls. En Chine, vous en avez une quinzaine, aux États-Unis une dizaine, etc., etc. Ça veut donc dire que dans ces flores tempérées d'autres zones du monde, nous avons des plantes de nos familles botaniques, qui ont la chance d'avoir poursuivi leur évolution, d'avoir pu se positionner dans certaines niches d'altitude, de climat, de variété climatique, de sol, etc. Et donc avoir des périodes de floraison diversifiées aussi. Ça veut donc dire que nos tilleuls, nos quatre braves tilleuls qui fleurissent ici en juin-juillet, nous allons en avoir en Asie qui vont fleurir juin, juillet, août, septembre, et c'est tout pour les tilleuls, excuse-moi. Donc ça veut dire que nos mêmes familles de végétaux vont nous offrir un calendrier. Alors, je vous donne un premier exemple. Donc chez nous en hiver, on a ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être voir. C'est une floraison, une fleur de Buddleia. Buddleia, c'est une famille essentiellement asiatique. D'arbustes qui fleurit en grappes serrées avec des fleurs en tubulaires qui ont l'avantage d'être extrêmement nectarifères et d'attirer. Alors, celui qu'on connaît le plus ici, c'est celui qu'on appelle l'arbre à papillon, Buddleia davidi. C'est un asiatique qui est même ici réputé invasif tellement il se propage spontanément. Celui-là, c'est Buddleia officinalis. C'est un chinois. Qui présente la curiosité de fleurir à Noël. Les bonnes années, quand il fait beau, il fleurit à Noël. Et il fleurit à environ 3 mois. C'est très intéressant. C'est le genre d'arbuste. Vous avez ça devant les ruches. Il fait beau à Noël. C'était le cas il y a 2 ans. Vous avez des abeilles là-dedans. Donc je vous l'ai mis comme un exemple de flore tempérée, complètement curieuse à nos yeux, mais qui en fait est tempérée et qui a eu la chance de survivre et qui spontanément, c'est une variété botanique, Buddleia officinalis, le Buddleia de Noël. Alors ça, très mellifère et surtout stratégique, il est là en plein hiver. Alors, je vais revenir quand même sur, je vous ai dit, Noël, bon, on peut avoir du pollen avec ce dont je vous ai parlé avant. Ça, c'est le sol marceau. Chez nous, il y a une famille végétale qui ne manque pas de qualité pour les abeilles, ce sont les saules. Saules et osiers, enfin, toute cette grande famille des salix. Alors, ils fleurissent. Vous voyez le ciel derrière, c'est magnifique. Ça, celui-là est un peu en fin de floraison. Alors, les saules sont des arbres qui sont dioïques. Alors, vous en avez des mâles et des femelles. Et curieusement, les mâles font aussi du nectar. C'est un atout pour les abeilles. La plupart des fleurs qui font du nectar sont les fleurs femelles. Tout simplement pour attirer les abeilles et autres insectes, pour qu'elles aillent se balader sur les fleurs, aillent chercher le nectar et laissent du pollen sur les pistils. Donc, dans cette famille des saules, vous avez du nectar sur les mâles et sur les femelles. Et du pollen, bien entendu. Alors, ça, c'est je me permets d'insister sur les saules parce que, je vous en ai mis d'autres, il y en a des très précoces. Celui-là, c'est un capré... Je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, j'ai capréa, je ne sais pas quoi. Merci. J'ai une mémoire qui flanche. Et donc, lui, il fleurit avant. Et celui-là, ça n'est un autre. Il fait des tiges fascinées. Peu importe. Donc, pour vous dire que dans la famille des saules, alors là, il faut y aller sans hésiter, vous avez des saules qui vont 2 mois et demi, 3 mois, vous fournir du pollen. C'est très joli, c'est très spectaculaire, il suffit qu'il fasse beau, et vous avez toutes vos ruches et toutes vos abeilles qui vont dessus. Alors en plus, l'avantage des saules, c'est que vous prenez un petit bout, vous le mettez dans la terre, ça se bouture, ça coûte juste l'effort et un coup de sécateur. C'est quelque chose d'assez solide et c'est réellement très impactant sur les abeilles. Alors eux aussi, ils étaient très à la mode dans les campagnes. C'était un assistant rural de première, parce que pendant longtemps, beaucoup des liens agricoles qui servaient, par exemple, à attacher la vigne ou attacher, quelles que soient des récoltes ou faire de la vannerie, etc., il y avait des saules un peu partout dans le paysage agricole français. Comme ils deviennent, encore une fois, peu utiles, la viticulture n'a plus besoin d'osier pour attacher ses sarments, donc vous passez dans tous les pays viticoles, vous n'en voyez pratiquement plus. C'est quelque chose de stratégique. Les saules, c'est quelque chose de stratégique. J'ai rajouté ça, je ne l'avais pas mis, d'ailleurs je n'en parle pas dans mon livre, je ne l'avais pas mis parce que je considérais qu'il fleurissait après le pissenlit. Moi, je me suis intéressé avec tout ce qui était avant le pissenlit et après les châtaigniers. Ce que je considérais comme les... Ça, c'est du buis. Et la semaine dernière, j'ai constaté que mes buis fleurissaient en même temps que mes deux osiers les plus précoces. Et ils étaient remplis, mais réellement remplis d'abeilles. Les buis, alors ils ont pas de peau actuellement, ils sont attaqués, largement attaqués, en espérant qu'ils vont survivre. Mais il y a des coins où ils ont été tellement attaqués par des chenilles qui leur mangent les feuilles et qui les laissent. Mais c'est vraiment une plante extraordinaire pour les abeilles. Voilà. Je vous ai parlé de l'hiver. Osier, quelque chose qui peut faire 2 mois, 2 mois et demi de pollen. Alors j'arrive, pour clôturer cette partie des que j'appelle les arbres d'hiver, j'arrive à quelque chose qui pour moi est réellement esthétique et remarquable. L'érable opale. Les érables, c'est une grande famille botanique, poussent à peu près partout en France. Ce sont des grands arbres mellifères. Le premier érable à fleurir, c'est l'érable opale. Il s'appelle aussi érable de Naples. Parce qu'il est plus méditerranéen, italien et espagnol que français. Il y en a très peu spontanément dans la flore française du côté dans les Alpes. Ceci dit, rien n'empêche d'en mettre partout dans le pays. Quels sont ses avantages? Alors, ça fait un arbre que je dis en boule. C'est lui, là. Il fait 8-10 mètres, il fait une belle boule s'il est laissé tout seul sur un parc ou une pelouse. Et il fleurit, alors là il faut le voir pour le croire, il fleurit avant de mettre les feuilles. C'est l'érable qui fleurit avant les feuilles. Ça veut dire que quand vous l'avez en boule jaune comme ça, c'est un jaune un peu soufre, vous n'avez que des fleurs. Et quand je dis des fleurs, ce sont des grappes, vous les voyez là, c'est pas très net, mais des grappes qui pendent. Et alors là aussi, un jour de soleil, ça vrombit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est sûrement le plus bel arbre mellifère français, enfin de la flore usuelle chez nous. C'est sûrement celui qui va intéresser le plus les abeilles. Parce qu'il arrive à un moment où la reine recommence à pondre après les sols et autres, elle a du pollen. Là, elles ont besoin de pollen, certes, et d'énergie. Lui, là, c'est une montagne de fleurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Juste une aparté. Je parle essentiellement d'arbres et d'arbustes pour l'avenir. Tout simplement parce que un arbre en fleurs comme ça, c'est un hectare de fleurs. Donc, vous l'avez verticalement au fond du jardin, au lieu d'avoir sur une étendue. Les coûts de production de fleurs mellifères par arbre, c'est dérisoire. Si vous commencez à faire de la jachère plantée partout, il va falloir labourer, il va falloir semer, etc. Donc, le coût-bénéfice de l'opération de l'investissement, c'est l'arbre. Et un arbre comme ça, encore une fois, c'est réellement extraordinaire. Il y en a très peu, pour une raison que j'ignore, parce qu'il est facile à multiplier. Il est très beau, il n'est pas très grand, donc il est adapté à des tailles. On le trouve dans les parcs urbains. Et il est relativement disponible en pépinière, pas en grande quantité. C'est peut-être là que le bas blesse. Et comme il n'est pas, c'est pas un érable rouge, machin, il est joli en automne, il devient orangé aussi. Donc il est réellement esthétique, mais cet avantage-là n'est pas mis en avant pour l'instant. C'est mon préféré. Non, pas du tout. C'est très, très continental. Je dis de Naples parce qu'il supporte le chaud et le sec. Il est intéressant parce que le réchauffement climatique, il va supporter. En Espagne, il est dans des conditions de montagne sèche. Donc, il supporte le froid et le sec. Il n'est pas grand et il est réellement, je vais dire, constant. Il fleurit avec constance. Dans un mois et demi. C'est un des premiers arbres à fleurir. Là, vous l'avez en photo. Derrière, vous avez d'autres érables, justement, et des tilleuls. On est à l'arboretum du Breuil à Paris. Et il est tout seul. Il fleurit. C'est aussi quelque chose d'impactant. Il fleurit alors que tous nos arbres sont morts. Donc toute la végétation autour est noire, sans feuilles. Et lui, tout d'un coup, devient comme ça. Et pour m'amuser, je vous ai mis ici. Là, on est au Paraguay. Il y a un arbre au Paraguay qui fait à peu près le même coup que le nôtre. Il s'appelle le lapacho. Lapacho, il fleurit jaune. Alors plus, c'est un jaune plus brillant que le nôtre. Et il fleurit en saison sèche. C'est-à-dire qu'il fait le même coup que le nôtre. Lui, toute la savane derrière est sèche. Il n'y a pas de feuilles. Il fleurit. C'est pareil. Et dans les deux cas, je dirais, c'est la même chose pour les abeilles. C'est réellement... le début de la saison, il y a du nectar et on fonce. Voilà. Donc, ce que j'ai essayé de vous dire jusqu'à maintenant, c'est qu'on peut combler l'hiver avec des arbres et arbustes qui vont fournir du pollen. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que se passe-t-il en été ? Comme je vous l'ai dit, on fait des miels avec les châtaigniers, avec les tilleuls, et après, c'est un peu fini. Plus aucun de nos arbres ne fleurit après le châtaignier, dans la flore usuelle. Donc si on va chercher dans les flores tempérées ailleurs, il y a plusieurs arbres. Alors je vais vous en présenter, moins que dans le livre, je vous en présenter un, c'est le Keulreuthéria. Son nom français, c'est savonnier, c'est pas très beau, parce que effectivement, il y a des saponines dans ces graines et on peut dans ces feuilles, on peut donc en faire un savon si on le souhaite. Ce Keulreuthéria, il a, comme tous les arbres, une propension à faire une quantité de fleurs extraordinaire, très mellifère. Alors lui, il fleurit. Vous avez deux variétés en France. Un penné et un bipenné. Le penné, il va fleurir selon les provenances de juillet à septembre, et le bipenné va fleurir en octobre. Vous imaginez qu'un arbre comme ça, jaune comme ça, en Bretagne en octobre, c'est quelque chose d'avoir, ça marque le paysage, ça c'est clair, mais c'est totalement inusité. Et c'est possible. Donc, cette famille végétale, elle est très mal sélectionnée pour l'instant. On trouve de tout chez les pépiniéristes et de tout au pied des grands arbres. Et vous avez, comme j'ai dit, une grande variabilité. Juillet, septembre, octobre. Donc, ce sont des arbres jolis, pas très hauts, rustiques, faciles à trouver, faciles à multiplier, qui attirent énormément les abeilles. Le Colroteria, c'est réellement un arbre urbain qui, curieusement, n'est jamais sorti en milieu rural. Tout simplement, encore une fois, parce qu'il n'est pas utile, à part être joli et offrir du pollen à des époques de l'année un peu étonnantes, il n'a pas eu de carrière rurale pour l'instant. Un peu anecdotique, toujours en été, si vous avez une pièce d'eau assez grande, vous pouvez tenter un lotus. Il y a dans les flores tempérées d'Asie et d'Amérique des lotus. Le lotus, c'est pas simplement une plante aquatique exotique de pays chaud. Ça peut être une plante de pays tempéré froid. Il y a des lotus à Pékin. Celui-là que je préfère, c'est le lotus américain, lotus blanc, lotus du Mississippi. Donc il va de l'embouchure du Mississippi jusqu'en remontant dans le nord américain. Il supporte bien le gel. Il a une grande curiosité. Il fleurit très longtemps en été, juillet, août, début septembre. Et il est très visité par les abeilles. Alors, juste, ça m'a beaucoup amusé. Le lotus est né dans la longue histoire de notre planète avant les abeilles. C'est un des rares végétaux dont je vais vous parler. Il est né du temps où n'existait encore que des insectes un peu lourdeaux, beaucoup moins fins et beaucoup moins astucieux que les abeilles. Et donc, il est né pour être pollinisé par des insectes plus fragiles que les abeilles. Et curieusement, lorsqu'il est fertile, fécond, il chauffe ses pièces florales. Il chauffe ses pièces florales pour attirer son pollinisateur qui aime bien passer la nuit au chaud. Alors, donc la fleur s'ouvre, elle se chauffe. L'insecte qui vient le chercher, j'ai oublié son nom, il a un nom à coucher dehors, mais il ne couche pas dehors, il couche dedans. Il va dormir au chaud, c'est de la thermogenèse. Il va sortir, et puis la nuit suivante, alors il va se couvrir de pollen, la nuit suivante, il va aller dans la fleur d'à côté, dormir au chaud, etc. Donc, ce brave lotus, il s'ouvre, il se ferme, et l'insecte se balade de fleur en fleur au chaud. Bon, ça c'est pour la petite histoire. L'insecte en question, il continue à vivre sur le Mississippi avec ce lotus. Chez nous, ce lotus, il lui faut au moins 1,50 m à 2 m d'eau. Il va fleurir et il va intéresser très tranquillement toutes nos abeilles et autres pollinisateurs. C'est très étonnant. C'est-à-dire, là, on est dans la coévolution avant les abeilles. Il a été, comment dirais-je, dessiné, entre guillemets, pour être fécondé par d'autres insectes. Alors, les abeilles ne dorment pas dedans, la chaleur ne les intéresse pas. Lui, il continue à faire de l'énergie. Il dépense de l'énergie, en fait, pour chauffer ses fleurs au moment de la fécondation. C'est réellement... C'est très louable, enfin, c'est une déperdition d'énergie de sa part qui ne correspond plus à un besoin naturel aujourd'hui. La fécondation par les abeilles n'exige pas de chauffage. Elle exige de la qualité du pollen, etc. J'y reviendrai après, mais donc je vous le signale. Et encore une fois, il est très rustique, très beau, très rustique. Son ennemi majeur, s'il en a un, sont les ragondins. Si vous avez quelque chose comme ça, les ragondins aiment pas mal les racines de lotus. Bon. Alors, je vais vous parler de notre arbre chinois. Dans les flores tempérées d'Asie, il est considéré comme l'arbre le plus mellifère du monde. Il a eu plusieurs noms. C'est un sport national chez les botanistes. Ils changent les noms des arbres histoire d'amuser le peuple. Donc, ça s'appelait l'Evodia. Ça s'appelle maintenant le Tetradium. Tetradium, c'est encore moins joli. Alors, c'est l'arbre, le bibitri, en anglais. Bibitri, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là, donc, il vient de Chine. C'est un arbre qu'on trouve en Chine du Nord, au-dessus de Pékin, dans les zones froides chinoises l'hiver, jusque vers le Sichuan. Le Sichuan, c'est au milieu de la Chine, en allant vers le Tibet. Donc, une amplitude géographique énorme. Ça, c'est pour vous dire aussi quelque chose d'important. La Chine a une végétation tempérée qui a pu se diversifier sur des milliers de kilomètres. Vous voyez, 6000 kilomètres, c'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire que les populations d'arbres chinois que nous avons ici peuvent venir du nord au-dessus de Pékin, où il fait moins 20, moins 30 l'hiver, jusqu'à des zones qui ressemblent plus à Marseille, qui sont toujours tempérées. Donc, cet arbre chinois, Tetradium, vient au moins de deux endroits pour ce que j'imagine être la provenance de ce qu'on a en France. On a donc affaire à une population d'arbres très diverse qui va fleurir de juillet à août selon la provenance. Là, je vous ai pris une photo qui a été, c'est une des rares rues de France, sinon la seule, qui a été entièrement plantée de tétradium, c'est à Nancy. La ville de Nancy, je ne sais pas pour quelle raison, je trouve ça génial, ils ont mis une trentaine de tétradium de part et d'autre de cette rue. Et alors, je m'y suis trouvé un moment où, vous voyez, enfin, on le voit assez mal, mais certains sont fleuris, d'autres étaient à peine ouverts et d'autres avaient fini. Donc, la même population sur la même rue peut avoir presque un mois de décalage. C'est quelque chose d'extraordinire. Et alors, l'autre chose qui est extraordinaire, c'est ça. Chaque inflorescence, c'est des petites fleurs. Les Chinois qui calculent, on dit qu'il y a 200 000 fleurs sur l'arbre. Je n'ai pas été vérifié. Donc, chaque fleur est extrêmement nectarifère. Il peut y avoir jusqu'à 13 abeilles sur une seule inflorescence qui va avoir cette taille-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un arbre qui est réellement très très intéressant sur le nectar. Et vous voyez par terre ici là, les feuilles, les fleurs tombent et blanchissent la rue. Ça tombe sur les voitures, ça tombe par terre. Et les abeilles continuent à aller voir s'il ne reste pas quelque chose à lécher par terre. C'est quelque chose d'assez un spectacle assez étonnant. Mmh. À tel point que les voisins se plaignent parce que ça fait un peu peur. Vous marchez sur les abeilles, vous en avez sur la voiture et ça agace un peu parce que ça fait moi je trouve ça joli, mais enfin bon, ça fait pas très très urbain. Il n'empêche que sur cette rue, on voit bien la diversité. Comme ce sont des arbres de semis, la diversité du matériel végétal dont on pourrait disposer si c'était sélectionné, tout l'été, vous avez des fleurs. Il est très beau. Il est très beau comme arbre. Il pousse relativement droit, etc. Il est très beau en fleurs. Les fruits sont des petites baies noires de moins d'un millimètre qui sont là-dedans. Et en automne, cette inflorescence devient rouge. Donc, il a aussi un intérêt esthétique très fort. Et dernier point, dans les arbres que je vous ai présentés, il a une histoire très particulière. C'est un arbre qui a une carrière en agroforesterie très forte. Il a été planté en rang dans les cultures d'Asie tempérée, en particulier en Corée et en Corée du Nord. En Corée du Nord, il a été estimé qu'il y avait 55 000 hectares de cultures intercalées avec lui, avec cet arbre. Tout simplement parce que c'est un des arbres qui donne une huile de qualité. Malgré la petitesse de ses graines, elle a toujours été considérée comme une des meilleures huiles par les Coréens. Donc, mellifère, de l'huile, très beau, et encore une fois, facile à multiplier de graines, avec une grande hétérogénéité. C'est réellement un complément d'arbres que très peu de villes utilisent. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quelle est la raison de cette présence massive à Nancy, mais c'est tout à fait éclairant et tout à fait intéressant. Oui. Je me permets de terminer juste. Alors là, je vous ai parlé de flore tempérée d'autres pays. Je vais vous dire aussi que l'horticulture, les horticulteurs ont créé des variétés très intéressantes, un peu par hasard, pour certaines, mais avec la volonté toujours de faire dans l'esthétique. et ils nous ont fourni des cultivars qui justement sont très intéressants pour l'apiculture parce qu'ils fleurissent très tard en été. Vous avez le lilas des Indes qu'on appelle le Lagestrémia. Juste, bon, il fleurit en été et il y a des cultivars qui l'amènent avec des longues floraisons de pratiquement 100 jours pour certaines variétés. Le Lagestrémia est quelque chose qui peut devenir un arbuste de jardin extrêmement mellifère. Il a une curiosité pour les abeilles. Il y a deux sortes d'anthères mâles dans la fleur du Lagestrémia. Les abeilles sont attirées par le pollen. Et plus le pollen est bon, plus elles y vont. Alors, astucieusement, le Lagestrémia, il a deux types d'anthères. Des anthères devant le pistil et des anthères derrière le pistil. Celles qui sont derrière le pistil ont un pollen amélioré, plus riche en protéines, ce qui fait que l'abeille, elle rentre, elle se charge de pollen quand elle arrive, et comme elle veut du pollen amélioré, elle va jusqu'au bout, et forcément, elle va en laisser au milieu. Donc, lui, c'est un astucieux qui a joué l'attractivité par la qualité du pollen. C'est juste une parenthèse. Alors ça, ce sont deux créations horticoles françaises. Pour celle-là, sont les céanotes. Les céanotes sont les lilas de Californie. Alors, curieusement, ils fleurissent printemps, début d'été en Californie, mais les sélectionneurs français du fin du 19e, début du 19e, milieu du 19e siècle, ont créé des variétés hybrides en croisant des origines du Texas avec des origines de Californie, etc., etc., et nous ont donné des céanotes qui fleurissent en automne, août, septembre, octobre. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant pour les jardins. Et alors celui-là, j'aime beaucoup. C'est une histoire à dormir debout. Là, celui-là, c'est un hybride entre un Chilien et un Chinois. Alors, et il a été fait en 1914. C'est là que ça devient encore intéressant. Au Chili, donc, il y a un Buddleia qui s'appelle Globosa, qui fait des boules jaunes, qui fleurit début de l'été. Vous mettez un Chinois, Buddleia Davidi, et vous croisez le tout en Angleterre. L'histoire dit que c'est un major anglais qui, pendant la guerre de 14, a eu une permission et est allé féconder ses deux Buddleia, puis il est reparti sur le front. Et donc ça a laissé celui-là, Buddleia Veilleriana. Et alors lui, il fleurit tout l'été jusqu'au froid. Et on l'appelle Oneicombe, ça veut dire rayon de miel. Tellement il est attractif. Il est beau, il est attractif. Il a une histoire improbable et il est réellement rustique et adapté à tout ce que... Voilà. Je vais terminer là-dessus. Donc, je me résume. Je pense surtout au réchauffement climatique. Je pense qu'il faut adapter la flore que l'on propose aux abeilles. Et pas seulement aux abeilles. Je prends les abeilles comme exemple de tous les pollinisateurs et autres insectes. Notre flore n'a pas la diversité suffisante pour assurer pendant de nombreux mois des floraisons continues. Comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas la faute à notre flore, c'est la faute aux glaciations. On a une flore tempérée qui a été largement amputée. Je ne dis pas qu'il faut la changer, je dis qu'il faut enrichir la flore à notre disposition et à la disposition des abeilles, avec des arbres qui vont venir soit d'Asie tempérée, soit d'Amérique tempérée, soit des créations horticoles. Et c'est quelque chose qui ne va pas choquer outre mesure ni l'œil ni l'écologie. C'est pour ça que je l'ai appelé l'apiforesterie ou l'apiagroforesterie. On reste dans des niches écologiques qu'on enrichit. On met des arbres tempérés qui vont fleurir plus tard que les nôtres. Alors des tilleuls, j'en ai pas parlé, qui vont fleurir plus tard que les nôtres. Des châtaigniers, il y a un châtaignier chinois qui fleurit pratiquement jusqu'en décembre. Castanea, Davidi ou Seguini. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il est chinois, il est du Sichuan, il fleurit. Il fait des petites châtaignes qui sont comme l'ongle et il fleurit tout le temps, en continu l'été. Donc on a une flore tempérée qui peut rentrer dans notre flore traditionnelle. Ici, je vous ai mis un ensemble d'arbres que vous allez reconnaître. Hein, c'est un coin de parc. Devant, vous avez ici, il y a un érable, on voit mal. Et là, il y a le tétradium en fin d'été, avec ce dont je vous parlais, des inflorescences qui rougissent pendant la maturité. Donc, ce sont des arbres qui collent parfaitement à nos paysages. Ici, vous avez un paysage viticole du sud de la France. Vous voyez, on peut avoir de la vigne avec des compagnons des arbres. Ici, il y a un saule, d'autres arbres fruitiers, et ici, un cyprès. Alors, juste une petite anecdote. Le cyprès, il est mellifère. Le cyprès, il fournit du pollen très tôt en saison. Il a commencé là, à fournir du pollen. Il est mellifère, il a un très bon pollen, et il fournit des résines à propolis. Les Grecs, les apiculteurs grecs, ils ont la chance d'avoir de la propolis de cyprès, qui est une propolis de grande qualité. J'ai toujours eu un faible pour les arbres tout seuls, et parmi les arbres tout seuls au milieu d'un paysage, j'ai toujours trouvé que les cyprès avaient de l'allure et qu'on ne soupçonnait pas leur intérêt mellifère. Voilà. Alors, je termine là-dessus. Il faut être... Alors là, j'ai mis... C'est dans mon petit jardin. Il faut être un peu iconoclaste. C'est-à-dire que le réchauffement climatique amène à modifier la palette avec laquelle on doit planter. Iconoclaste, c'est parce qu'il faut sortir de la flore du coin et amener dans la flore du coin autre chose qui va l'enrichir. Respecter ce qu'il y a, j'ai parlé du lierre, mais aussi amener d'autres plantes qui vont fleurir avant, après, etc. C'est ça le message un peu iconoclaste. Enrichissons la flore, diversifions-la. Mettons des poissons dans les jardins. Voilà.
Voilà. Tiens, voilà. Donc maintenant, si vous voulez, vous allez pouvoir poser des questions. Alors, comme vous... Donc, merci Yves. Comme la conférence est enregistrée et que c'est agréable que tout le monde entende dans la salle, le micro, carrément, on le pose sur le menton. D'accord ? Donc voilà, si vous avez des questions...
En fait, je voulais juste... ça me questionne sur l'échelle et l'efficacité de ces plantations-là. Et du coup, j'imagine facilement, quand on est dans de l'apiculture en fait amateur avec quelques ruches au fond du jardin, de planter de mettre des plantes dans le jardin et tout ça, et que ça va être efficace pour les quelques ruches qui sont là. Et je me demande, pour l'apiculture un peu plus professionnelle, à partir des ruchers de 200, 300, 400 ruches, après, c'est sur quelle échelle en fait on a besoin d'implanter pour que ce soit significatif et efficace. Et du coup, dans cette version-là, je me dis que ça peut être qu'un projet aussi territorial et de partenariat avec, avec des collectifs qui se disent on va implanter sur une échelle large, parce que je ne sais plus le rayon d'action d'une ruche sur le territoire, c'est 3 km. Donc voilà, après, si y a un rucher de 50 colonies, ça devient vite vaste et voilà.
Oui. Ce qui m'a beaucoup inspiré... outre mes activités d'apiculteur en Bretagne et dans le Gers, c'est une vision de l'apiculture urbaine à Paris. À Paris, on a la chance d'avoir beaucoup des arbres que j'ai cités ici. Et l'apiculture parisienne obtient des rendements énormes, assez constants tous les ans. Donc, c'est vrai qu'il y a une surface d'arbres à Paris que l'on ne soupçonne pas, mais c'est vrai aussi que les abeilles trouvent ce que j'ai dit, c'est-à-dire une alimentation continue et de qualité et diversifiée, malgré la pollution urbaine, ce qui est assez étonnant et sympathique. Donc, pour revenir sur votre question, oui, vous avez raison. Les arbres dont je parle sont rarement dans les catalogues des pépiniéristes parce que, encore une fois, les pépiniéristes vendent ce qui est utile. Beau et utile. Beau et utile au jardin, beau et utile aux agriculteurs, etc. Ces arbres-là ne sont pas forcément... Ils sont beaux, ça c'est sûr, j'ai fait exprès de cibler, mais ils sont utiles, mais pas forcément de la même façon que le peut l'être un acacia. Vous avez dans les catalogues de pépiniéristes, vous avez l'acacia. L'acacia, il est extraordinaire pour les abeilles. On en met partout, il y en a partout dans le territoire. Le problème de l'acacia, à mes yeux, c'est qu'il fleurit à une époque où il y a 36 000 arbres qui fleurissent. Je ne vous ai pas parlé d'un autre, qui est le sophora. Le sophora, c'est un cousin de l'acacia. D'ailleurs, un non-initié pourrait même presque les confondre, ils ont les mêmes feuilles, etc. Le sophora, il n'a jamais eu la carrière de l'acacia parce que, je vais être méchant, il ne sert à rien. L'acacia, vous faites un piqué et des beignets. Avec le sophora, vous ne faites même pas des beignets. Donc, l'utilité des arbres a condamné beaucoup de ceux dont je parle à l'oubli ou à l'existence dans des arboretums et des collections. Je considère qu'ils sont très utiles. Donc pour répondre à votre question, oui, il y a une grande difficulté. Oui, il faudrait que ce soit des plantations massives, comme pourraient l'envisager les forestiers. Sauf que là, je ne parle pas d'arbres forestiers, je parle d'arbres diffus dans la nature pour donner de l'alimentation aux abeilles. Il faut donc que l'utilité soit reconnue. Et pour que l'utilité soit reconnue, il faut déjà en parler. Et il faut motiver un certain nombre d'opérateurs à leur emploi. Et ça, c'est pas facile. J'ai plaidé en riant pour qu'il y ait un quota de sophora sur les autoroutes de France. Ouais. Les autoroutes de France, c'est les grands derniers planteurs d'arbres dans ce pays sur des milliers de kilomètres de long. Ils nous mettent des piracantas, des trucs, des machins. Enfin, ils mettent des trucs. C'est joli, ça se taille une fois par an, etc. J'ai rien contre, mais il n'y a pas une réflexion sur l'utilité de ce qu'ils mettent, si ce n'est une utilité pratique. Ça, c'est un opérateur parmi d'autres. Vous avez des villes en France qui considèrent que la flore du coin, c'est suffisant. Alors, ils vont vous mettre des rangées de chênes à Rennes. C'est beau, les chênes. Enfin, on en a plein les rues partout. Je veux dire, on pourrait aussi imaginer une gamme variée. Il y a des villes qui sont au contraire extraordinairement diversifiées. Là aussi, c'est des opérateurs urbains très diversifiés. Je vous ai mis Nancy. Nancy, vous avez quantité d'arbres de toute la planète tempérée qui attirent les insectes peut-être mieux qu'à Paris, en diversité. Et pourtant, Paris est champion, je vais dire, dans les capitales du monde. Paris, c'est extraordinaire. Donc, pour revenir à votre question, oui, il faut des opérateurs. Il faut effectivement que les pépiniéristes qui s'adressent aux banlieusards aient des arbres ayant cette utilité, ou des arbustes, ce qui n'est pas le cas toujours. Et il faut que le monde rural ait aussi conscience de ça. Et là, je vous avoue que c'est très difficile, encore une fois, pour des raisons d'utilité. La démarche dans notre pays a été et continue à l'être, pour les arbres ruraux, une démarche d'utilité. S'il n'est pas utile, un jour il va prendre un coup de tronçonneuse ou un jour il va prendre un coup de barbeuse et on n'en parlera plus. Et c'est pour ça qu'on continue effectivement à avoir dans le milieu rural, pour des raisons diverses, une perte de haies, une perte d'arbres. Les arbres dont je vous ai montré la photo, là, les arbres au milieu du maïs, ils sont encore utiles parce qu'ils font du bois, mais ils ne seront jamais replantés. C'est-à-dire que, et je pourrais vous montrer quantité de haies bocagères bretonnes où, après la génération actuelle, on ne replantera pas les arbres isolés. Le cyprès dans la vigne, c'est dans le vignoble de Gaillac, le cyprès dans la vigne, il est plus replanté. Il n'y a plus de replantation de cyprès dans ce pays. Bon, il était là au fond du champ, alors ça fait 3000 ans ou 2000 ans ou 500 ans qu'il est là, personne ne va oser, il file un coup de charrue. Mais je veux dire, il y a cette perte d'utilité qui est très profonde. Donc oui, vous avez raison, et je pense, c'est un peu pour ça que j'ai écrit le livre aussi, je pense qu'il faut expliquer. C'est pas de moi, mais ça m'a beaucoup frappé. On plante ce qu'on aime. Et on aime ce qu'on connaît. Ça, c'est... Donc, il faut faire connaître. Déjà, faire connaître pour faire aimer. Et à partir de là, peut-être on fera planter. Mais c'est vrai que l'acte de planter, c'est quelque chose... je cherche, comme vous, la solution. Avant tout, je suis un planteur. Je cherche la solution.
Est-ce qu'il marche, le micro? Oui. J'en ai trouvé un avec un grand câble.
Oui, ça va comme ça? D'accord. En écoutant votre conférence, effectivement, j'ai pensé immédiatement qu'il fallait qu'on trouve en France et en Europe des opérateurs. Donc, vous les avez cités. J'ai pensé au domaine public, tout ce qui est espace public, jardin, route, autoroute, etc. Donc, je fais que conforter vos dires. Par contre, pour l'agriculture, j'aurai un différent avec vous parce que je suis agriculteur, donc je sais de quoi je parle. Et je pense que l'agriculteur, il a encore besoin des haies, il a besoin de la forêt, il a besoin des arbres. Et les agriculteurs ne savent pas à quel point ils travaillent contre eux quand ils arrachent et qu'ils déciment les haies. Une haie, elle fait barrage au vent, elle abrite des prédateurs, elle évite l'érosion, etc. etc. Et moi-même... j'exploite des vignes, non pas dans le sud de la France, mais dans le Jura. J'ai conservé tout un paysage avec une biodiversité intéressante. Il y a quelques îlots d'acacia, de hêtres, de chênes à proximité de mes vignes, de l'épine noire, de l'épine blanche, etc. Et il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de racheter un terrain juste en bas de mes vignes, mais là qui est propice au maraîchage. J'ai installé des maraîchers, des maraîchères, et le terrain était complètement dénudé, ravagé, bétonné par l'agriculture industrielle. Eh bien, avec les maraîchères, on a replanté des haies tout autour, des haies avec une douzaine d'espèces, quelque chose de diversifié, tout autour de la parcelle, au milieu de la parcelle. Je vous garantis que je récolte du raisin, elle récolte des légumes. Donc, il faut motiver l'agriculteur pour qu'il replante des haies. Et effectivement, avec ce type de haies dont vous avez parlé, ce type d'arbres et d'arbustes, en plus qui vont être mellifères et propices à la vie des abeilles.
Voilà, il y a la question, la réponse. Super.
Merci pour le témoignage. Je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait vrai. Il faut motiver, faire connaître. La haie agricole a une utilité fondamentale. Et je pense qu'il faut continuer et l'enrichir à cause de ce que j'ai dit, à cause du réchauffement climatique. Je ne fais pas une obsession du réchauffement climatique, mais c'est quelque chose d'assez crispant quand même. Parce que on promet 2 degrés de plus en 2050, mais si c'est 3 ou 4, ça fera encore moins rigoler. Donc je pense qu'il faut être attentif à ça, attentif à compléter les flores. Les laisser, planter des haies avec de l'épine, avec de tout ce qui est dans le coin, mais les enrichir. Et préparer une flore à être en service continu. En service continu. Bon, non mais je serais intéressé de discuter avec vous sur les vignes, parce que je pense que la viticulture est peut-être justement une des agricultures qui peut avoir un effet de levier important pour replanter. On a fait des monocultures de vignes en pagaille et effectivement on pourrait y remettre un peu de diversité.
Voilà. Voilà, une autre question ici.
En fait, c'est un double témoignage. Je voudrais dire que la ville de Villeurbanne, par exemple, plantait des quantités de sophora du Japon. Il y a des alignements, par exemple, devant la mairie de Villeurbanne. Ce ne sont que des sophora du Japon qui sont très vieux et ça bruisse d'abeilles en permanence. Ah ouais. Et puis aussi une autre chose, là je passe du coq à l'âne, je reparle du lierre. Le lierre a une importance écologique majeure et entre autres, ses baies. Bon, déjà, ces fleurs fleurissent à contre-temps et c'est la même chose pour les baies. Et à la fin de l'hiver, à Villeurbanne, là où il y a des lières, c'est plein, vous voyez plein de merles qui sont dedans parce que c'est les seules baies en fait, qui restent en ce moment-là, maintenant qu'ils ont mangé toutes les autres petites baies rouges dans les haies, etc. Et le lierre, ça se bouture très facilement. Moi, j'en bouture tout le temps et j'en plante en sauvage au pied de certains arbres, de murs laids, des choses comme ça. Et ça pousse très bien, en fait. Voilà. Ouais. Ça rend service à la nature.
Vous avez vu, le sophora, il fait comme le tétradium, c'est-à-dire les fleurs tombent par terre, les abeilles... Et ça m'amène à dire quelque chose. Les populations de tétradium sont très diversifiées selon l'origine chinoise. Mais ça serait la même chose pour les sophora. C'est, encore une fois, je le dis anecdotiquement, pas si anecdotiquement, justement, à la fin de mon livre, je pense qu'on aurait intérêt à travailler avec les botanistes chinois en particulier, pour diversifier les populations alors de sophora, pour en avoir des plus tardifs, plus... Ils ont créé un sophora rouge. Il y a bien un acacia rouge, alors il y a un sophora rouge en Chine. Bon, je sais pas s'il arrivera un jour aussi. C'est anecdotique, mais ça veut dire que les populations d'arbres utiles pour nos villes, mais aussi pour les campagnes, le sophora, c'est possiblement un arbre qui pourrait avoir un intérêt en agroforesterie dans les champs. On a des variétés qui poussent droit et haut. Il fixe l'azote, il attire les abeilles. Il est résistant pratiquement à tout. La seule difficulté, c'est qu'il est coûteux parce que il est rare dans les pépinières. Et pour faire un arbre rural, pour reprendre la question de monsieur, il faut que les arbres aussi soient rendus accessibles en quantité à des tarifs.
Le problème aussi, c'est qu'il lui faut 20 ans avant de fleurir. Et on ne raisonne pas trop à des échelles de temps comme ça maintenant.
Alors oui, sauf si vous greffez un vieil arbre sur un plus jeune. La greffe amène l'âge du greffon. Donc vous pouvez avoir des fleurs. Enfin bon, il faut le greffer. Il faut aller. Alors si vous en avez 10, ça va. Si vous en avez 200, ça devient du boulot. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. Il fleurit. Tout se paye un peu. Le réchauffement, c'est 2050. Donc on peut les voir fleurir avant.
Une autre question.
Bonjour, donc Romain, un apiculteur amateur et puis un naturaliste. Vous avez parlé tout à l'heure de plantes invasives. Et en tant qu'apiculteur, il y a quand même quelques plantes qui me parlent, comme étant du sud de la Dombe. Je vois le buddleia, comme le buddleia est quand même invasif. Et puis, je pense aussi au Saint-Son du Cap, qui fleurit carrément de la frontière allemande, puisqu'on le trouve bien sur les autoroutes allemandes. Et puis on arrive à le trouver jusqu'ici en floraison, hein, du mois d'août jusqu'au mois de septembre. Et c'est quand même une plante mellifère qui pose problème, puisqu'il y a des substances hépatotoxiques dans le nectar. Donc on va le retrouver dans le miel. On pense qu'en termes de commercialisation, ça va nous poser problème. Alors je pense que c'est une très bonne idée pour être dans le milieu rural, agricole et participer à des actions de plantation de haies avec des élèves, de mettre de nouvelles espèces, surtout dans des secteurs qui sont des secteurs d'open field, de champs ouverts, en sériculture, où justement il y a deux gros coûts de production, comme vous l'a dit, le coût du colza et le coût du tournesol, et de faire des projets de renaturation avec des espèces comme ça, qui sont pas des espèces exotiques, c'est super, pour l'avoir un petit peu essayé. Et puis ça a un impact très prenant sur la population locale. Mais je pense que pour les espèces dont on ne connaît pas, comme j'ai entendu parler du lotus, et je pense à la jussie aussi chez nous, comme elle a pu envahir des launes, des bras morts du Rhône et de la Saône, il faut quand même faire gaffe à veiller, à voir un petit peu si on a des risques d'invasion avec ces espèces-là. Je reprends aussi l'ambroisie, hein, qui n'a pas posé problème pendant à peu près 30 ans, 40, 50 ans, et puis maintenant qui explose dans la région. Voilà.
Mais, merci, oui. Alors, j'ai pris soin de ne parler que d'espèces et de variétés de buddleia qui ne sont pas invasifs ou qui ne l'ont pas été jusqu'à présent. Le buddleia dont vous parlez, c'est le Davidi. Là, celui dont je parle, c'est le Veillé iranien ou l'officinalis, qui ont des niches totalement différentes et qui ne se baladent pas avec le vent aussi spontanément que le Davidi. Par contre, et dans mon livre, je profite de votre message, donc j'ai tenu compte de ce qu'on savait sur les invasifs pour les éliminer, sauf que je me suis permis de présenter les lentes glanduleuses. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est très simple, vous allez dans toutes les entrées de Paris, là où il y a du béton, de l'asphalte, des lignes à haute tension, etc., les seuls arbres qui longent nos banlieues, ce sont les élantes. Ils s'y mettent spontanément. C'est un arbre magnifique. Quand vous avez vu ses feuilles, il est magnifique. Les abeilles adorent ça. J'en ai parlé tout simplement pourquoi ? Parce qu'il a été considéré comme invasif. Je ne suis pas d'accord. Ça ne regarde que moi. Mais ce n'est pas ce titre-là que je l'ai mis. Je l'ai mis en disant, bon, et si en 2050, on a 3 degrés, 4 degrés de plus, qu'est-ce qu'on met comme arbre, y compris à la campagne, y compris dans les open fields. Des arbres qui ont la capacité à survivre dans des chaleurs de 40 et plus l'été, sans eau, pendant 2 ou 3 mois, et j'en connais pas beaucoup en milieu tempéré, qui plaisent aux abeilles. Sauf lui. Il est à Pékin, etc. Donc, dans mon livre, je parle, en faisant très attention aux invasifs, à ce que vous avez dit, mais je parle de celui-là, en disant deux choses. Si la situation empire, il faudra tenir compte de végétaux qui ont la capacité à résister à des milieux extrêmement perturbés, des conditions climatiques d'enfer, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à propos des invasifs et des arbres en particulier, n'est invasif qu'un arbre qui a été mal positionné et mal contrôlé. Un élante, si on le contrôle, il est moins invasif que l'acacia. L'arbre le plus invasif qu'on a chez nous, c'est l'acacia. Plantez des acacias chez vous, si vous ne faites rien, vous en avez pour trois générations avant de liquider, parce qu'il repousse sans arrêt de ses racines, y compris à 20 mètres du tronc. Donc l'arbre le plus invasif qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est l'acacia. Les lentes, il est moins invasif que l'acacia. Un coup de tronçonneuse, puis après vous tapez sur les repousses, c'est quasiment terminé. Donc je fais très attention à ça. Et encore une fois, les arbres et arbustes dont je parle sont déjà chez nous, dans des conditions urbaines ou de parc ou d'arboretum, certes, rarement en milieu ouvert, mais leur comportement a été jugé à peu près non invasif. En particulier tous les buddleias dont je parle. Voilà, c'est très vrai. Ça peut être un problème, c'est très vrai, mais bon.
Alors après, il y a un autre aspect, quand une espèce, une essence arrive, c'est la variabilité génétique. Souvent, c'est issu de clones, et le gros risque, c'est s'il y a une maladie qui arrive, on peut avoir des espèces comme on a connu, hein, pour l'orme, pour le châtaignier, pour le frêne actuellement, pour une maladie qui va être expansive très très rapidement, qu'on ne pourra pas enrayer, puisque au niveau génome, hein, c'est identique. Voilà.
Ça, c'est ce que j'ai dit. Sauf à travailler rapidement avec des botanistes chinois ou nord-américains pour certaines espèces, la variabilité des matériaux qui sont chez nous, les arbres importés de Chine au 19e siècle, ils sont arrivés avec trois graines dans un sachet au Muséum d'Histoire Naturelle ou autre. Donc on n'a pas forcément ici une grande variabilité génétique. Ça, c'est la première chose. On n'a pas forcément la meilleure ou la plus adaptée à ce qu'on cherche. Donc il y a tout un travail derrière qui mériterait d'être fait. La difficulté, c'est le temps. Le temps. Et j'ai peur que le temps manque. Quand je vois il y a deux ans, là, l'hiver 2015, ça va faire. Quand je vois l'hiver de 2015, je me dis, si on en a trois comme ça qui se suivent, ça va changer notre paysage à une vitesse suivie de perte de sécheresse de quasi trois mois. Enfin, ça peut être effectivement quelque chose de très sélectif pour la végétation dont nous disposons au jour d'aujourd'hui. C'est le temps et le réchauffement sont deux choses qui me préoccupent par rapport à toutes ces questions fondées, mais...
Et un dernier point, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop prolixe. Il y a une plante effectivement absolument magique, c'est le lierre, je vous rejoins, qui, on va dire ici, fleurit de septembre jusqu'à peu près novembre. Elle est quand même même fin août. Et c'est une sorte de la réhabilité, notamment dans les écoles, et les élèves sont assez réceptifs à ça. Mais voilà, donc par la communication aussi, c'est un pilier important pour que les espèces exotiques et autochtones puissent avoir une place pour les abeilles. Voilà, merci.
Voilà, on arrive bientôt à la fin, donc une dernière question peut-être.
Je profite avant que monsieur pose sa question. Ma méthode, ça a été d'aller partout où j'ai pu aller dans les arboretums et autres collections d'arbres, regarder ce qui se passait dans les mois qui m'intéressaient, s'il y avait des abeilles en particulier, regarder ce qui se passait. J'ai mis ce que je trouvais intéressant. N'est pas arbre mellifère qui veut. C'est-à-dire que vous avez des arbres qui fleurissent en automne, mais qui intéressent très moyennement les abeilles, pour des raisons diverses et variées. Ça peut être la qualité du pollen, ça peut être l'accessibilité de la fleur, ça peut être Dieu sait quoi. Donc si jamais vous voulez continuer à dialoguer, si vous avez des observations et tout, ce qui m'intéresse, c'est de les recevoir. Vous avez mon mail ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui fleurit après le châtaignier et avant le pissenlit. Vous avez tout compris, c'est mon idée fixe. Donc si vous avez des idées, des questions, des suggestions, je suis preneur. Pardon, monsieur.
Alors cet été, dans un petit village de Bourgogne, pendant deux mois, de magnifiques tilleuls n'ont eu aucune abeille. L'explication, c'est la pyrale du buis qui chasse les abeilles. Pareil dans le début de l'EIA. Est-ce que vous connaissez des arbres pour lesquels l'abeille pourrait ne pas être chassée par le papillon en masse?
Non. Simplement, c'est peut-être par rapport à votre question, mais simplement, on pourrait peut-être rajouter des tilleuls aux nôtres. Il y a deux tilleuls qui sont très intéressants pour les abeilles. Il y a un tilleul, le tilleul japonais, Tilia japonica, qui fleurit, qui a la même feuille que le nôtre, qui fleurit 2-3 semaines après le nôtre, avec une floraison magnifique et extraordinaire, mais vraiment magnifique. Quantité de fleurs, c'est incroyable. Et après, vous avez un chinois, c'est le tilleul de Henri, qui va fleurir au mois d'août. Et là aussi, alors les deux sont très différents. Il y en a un qui fleurit en masse d'un seul coup, et l'autre, le chinois, qui fleurit étalonné. Et comme ils sont décalés par rapport à... Peut-être ça pourrait être une tactique, mais bon. Et ces deux tilleuls sont faciles à obtenir, relativement faciles.
Oui, parce qu'une fois que les lipérales sont partis, les abeilles reviennent hein, voilà. Sur les buts de Leia, par
donc,
exemple.
Donc oui, donc on va les mettre, on va élargir la niche des tilleuls, quoi.